Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France Bouge, au service d'un monde qui change. Et vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes et des patrons qui imaginent déjà le monde de l'après-crise. Et puis quand ça va mal, ici c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. On en parle ensemble avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Allez, on programme nos vacances d'été à l'étranger. Oui, on est comme ça, nous, en ce vendredi. On va donc prendre l'avion. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Stubler, c'est la patronne de Transavia et on embarque avec elle dans l'avion de la France Bouge jusqu'à 14h.
À la une, l'aviation qui a un rôle à jouer dans notre environnement. Open Airlines et grâce à leur logiciel, les vols permettent d'économiser entre 2 jusqu'à 10% du carburant. Son fondateur nous dira comment d'ici quelques minutes.
C'est l'un des principaux aéroports en région. Tiens, comment est né l'aéroport de Bordeaux-Mérignac? Ce sera notre saga du jour, vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge avec notre partenaire, la CCI. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, Oscar et Sacha, des cirés pour les enfants qui protègent de la pluie et qui permettent de voir l'enfant dans le noir. On écoutera le pitch de ce projet à 13h45.
Et demain, un emploi, car toute la semaine, vous le savez peut-être, Europe 1 est mobilisé pour soutenir et accompagner les jeunes. Aujourd'hui, on a 35 postes à pourvoir chez Ultra Premium. C'est une entreprise de nutrition pour chats et chiens en ligne.
Allez, bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
La France Bouge qui soutient l'aérien aujourd'hui. Et on va quand même s'intéresser à tout cela parce qu'on va préparer nos vacances d'été.
Et oui, déjà avec vous, Nathalie Stubler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la PDG de Transavia. Transavia, c'est la filiale low cost d'Air France. Elle est née en 2006. Transavia, aujourd'hui, c'est 40 avions. Et si nous avons voulu vous inviter dans La France Bouge, c'est pour parler de l'avenir. Parce que oui, en ce moment, on le sait, c'est compliqué, ça va mal. Il y a même des jours où aucun avion Transavia ne vole. Mais là, on va parler de l'été. Parce que votre plan de vol, Nathalie Stubler, on va dire, il est ambitieux hein, pour vous. L'été doit marquer un redémarrage pour Transavia.
Alors oui, on prépare l'été. Et on se prépare à la croissance. Alors bien sûr, tout ça dépendra des conditions de voyage, des restrictions dans aux frontières ou
plein d'inconnus là encore.
Ou des chiffres de la pandémie. Mais nous, on se prépare à la croissance. C'est la feuille de route qui nous est donnée chez Transavia France. On va recevoir cette année 8 avions. Alors ils ne vont pas tous voler en ce début d'année. Tout à fait. On montera 48 avions cet été. Mais on va se tenir prêt. Se tenir prêt à la croissance et on a déjà annoncé un certain nombre de nouveautés.
Comment on prépare un plan de vol quand il y a autant d'incertitudes? Là, vous vous dites, allez, il faut presque que je rêve et que je me dise que ça va être possible parce que si on s'y prend trop tard, dans tous les cas, on n'y arrivera pas.
Alors, on a quand même eu un bon entraînement quand même en parlant d'incertitudes et de la gestion face à l'incertitude l'année dernière. L'année dernière aussi, on avait un plan de vol ambitieux, de la croissance. Hein, et puis, on s'est retrouvé sans aucun avion pendant 3 mois. Donc, zéro vol pendant 3 mois. Et on a réussi à reprendre très rapidement, puisque 26 juin, Orly s'est réouvert. Et au mois de juillet, on était déjà à 40% de nos capacités. Août, 50% de nos capacités. Et vous connaissez la suite de l'année. Bien sûr, un deuxième confinement. On s'est ajusté à la baisse. Et on est remonté encore à nouveau pendant les vacances de Noël.
Mais justement, si on compare par rapport à l'été 2020, l'été là qui arrive, vous imaginez qu'il va être meilleur. Il y aura logiquement plus d'avions Transavia en vol, plus de destinations ouvertes. C'est votre pari pour le moment.
Oui, on se prépare à cela. On se prépare à cela parce qu'on espère qu'il y aura aussi des frontières qui seront ouvertes. Hein. Par exemple, l'été dernier, le Maroc n'était pas ouvert. Il a réouvert en cette fin d'année, et ce qui a permis effectivement d'y aller pendant les vacances de Noël. Depuis, il n'y a plus de vol puisqu'il faut un motif impérieux pour sortir vers l'international. Mais on se prépare effectivement à avoir un plan de vol plus ambitieux que l'été dernier. Et on sait qu'on sera capable de s'ajuster soit à la baisse, soit à la hausse.
Alors quand on voit Nathalie Stubler aujourd'hui, la une du Parisien aujourd'hui en France, qui titre la fin d'une époque avec un avion Air France photographié en une du quotidien. Est-ce que vous, Nathalie Stubler, PDG de Transavia, vous pensez qu'on va changer notre façon de voyager? Est-ce la fin d'une époque?
Alors, ce que nous on dit, c'est qu'effectivement, on a un réseau et on a des clients qui ont effectivement de très bonnes raisons de voyager. D'abord, pour rendre visite à sa famille. Par exemple, les lignes que nous allons ouvrir en France, qu'on a déjà ouvertes depuis le mois de novembre.
Donc ça fait partie des nouveautés dont vous parliez?
Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, ces clients ont un vrai besoin d'aller retrouver leur famille, d'aller retrouver des amis. C'est vrai aussi entre pays, C'est vrai aussi entre la France et le Portugal. Il y a des liens très, très historiques et qui font que des gens voyagent entre les deux pays. Et donc, on pense que ces clients vont toujours avoir une bonne raison de voyager.
Donc, ce n'est pas la fin d'une époque. On va continuer à voyager et on ne va pas la changer, notre façon de voyager.
On va continuer de voyager. On va peut-être se centrer sur ces bonnes raisons de voyager. Le tourisme, c'est aussi une bonne raison de voyager. Les gens ont envie aussi de décompresser. Mais effectivement, on va rester responsable. C'est ce que nous, on dit au sein du groupe Air France, avec des engagements aussi de responsabilité sociétale.
De responsabilité sociétale. Mais c'est vrai qu'on accuse parfois les low cost de dire on paye quasiment plus rien pour voyager. Et ça incite les gens à faire du tourisme de masse. Par exemple, chez vous, hein, très souvent, on a 29 euros prix de base. Alors, on n'a quasiment jamais un avion à ce prix-là. Mais bon, paraît-il qu'il y a des places à 29 euros chez Transavia. Dans l'idée de changer le monde, de changer d'époque. Est-ce que ça, par exemple, c'est terminé le Paris-Barcelone à 29 euros?
Alors, le Paris-Barcelone a un prix d'appel, ça reste toujours effectivement important pour toucher le plus grand nombre. Effectivement, tout l'avion ne sera pas vendu à ce tarif. Nous, chez Transavia, on n'a pas de tarif dit négatif, c'est-à-dire qu'on paye nos taxes aéroports. Vous allez trouver des tarifs.
C'est-à-dire que vous ne vendez jamais à perte un vol, c'est ça que vous dites?
On ne va pas vendre à des prix qu'il serait considéré comme en prix net négatif, parce que vous savez que dans le prix affiché, il y a une taxe, par exemple, à l'aéroport, et on ne va pas se trouver sous ce niveau-là. Et puis, effectivement, progressivement, en fonction
donc
de la demande...
Donc on peut dire que quand on vous paye 200 euros à Paris-Barcelone, vous gagnez beaucoup votre vie, c'est ça que vous voulez nous dire?
Ce n'est pas ça que je veux dire, bien sûr, Emmanuel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va rester raisonnable sur ce prix. Il faut des prix d'appel pour des petits budgets, bien sûr. Et puis, mais on n'a pas de prix dit négatif dans notre milieu.
Alors, Nathalie Stubler, vous nous parliez de nouveautés. Sur quel pays misez-vous aujourd'hui?
Alors, les nouveautés, d'abord, elles ont été lancées au sein de la France. Donc, c'est pour nous une nouveauté, hein, puisqu'on avait
Vous remplacez des lignes de Hop, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Transavia vient suppléer cette filiale...
Sur un certain nombre de routes, et puis on ouvre des nouvelles routes qui n'étaient pas non plus opérées au sein du groupe.
Lesquelles?
Par exemple, au départ de Brest, on a ouvert au total 8 routes au départ de Brest, et toutes n'étaient pas opérées par le groupe. Donc, on a de très jolies destinations en France, le sud de la France, et puis aussi vers la Corse, au départ de Brest. Et donc, ça sont les nouveautés de cette
année. Comment on décide de se dire qu'un Brest-Marseille ou un Brest-Ajaccio, ça va être l'une des lignes de demain?
Alors, on a des chiffres, il y a des chiffres qui existent, hein, qui sont des chiffres partagés dans des systèmes de réservation. Donc, on connaît, je dirais, un certain nombre de volumes de trafic. Et puis on va regarder si les routes ont déjà été faites. On va discuter aussi avec les aéroports pour savoir s'il y a effectivement des flux intéressants pour nous.
Et en ce moment, c'est intéressant pour les compagnies aériennes. Du coup, les aéroports vous disent, allez, venez, moi, j'ai personne, donc prenez-moi des créneaux, relancez mon aéroport. Ça vous coûte moins cher, par exemple, de venir là à Brest-Guipava, qui est le nom de l'aéroport?
Non, c'est pas que ça nous coûte moins cher, mais c'est intéressant de discuter avec eux pour comprendre les flux, les demandes locales, pour savoir ce qui se développe. Puis après, il peut y avoir des nouveautés, soit touristiques, soit d'origine plus professionnelle. Et c'est toujours important de le faire avec eux. Mais en de plus de la France, on a toujours notre réseau, je dirais, historique transavien. L'été, c'est beaucoup la Grèce, l'Espagne,
l'Europe du Sud,
les îles espagnoles, le Portugal, le Maroc, la Tunisie.
Nathalie Stubler, vous êtes la PDG de Transavia. On va continuer à voyager avec vous.
Europe 1. Vous êtes au bon endroit, l'avion européen, 13h19.
À suivre, comment faire des économies de carburant en plein vol. Une entreprise toulousaine, a trouvé la solution pour piloter de manière plus efficace.
Oui, ça s'appelle Open Airlines et son fondateur est également avec nous dans un instant. Ça fait du bien, on parle de soleil, on parle de vacances aujourd'hui, de vacances d'été dans La France Bouge avec notre grande témoin du jour, Nathalie Stubler, qui est la patronne de Transavia.
Et pour les compagnies aériennes, l'enjeu est double, hein, parce qu'il faut, on le sait, hein, il faut d'urgence réduire leur impact environnemental, hein, l'impact environnemental des avions face à l'urgence climatique, mais elle est aussi économique, puisque par exemple, le carburant représente en moyenne 30% des coûts d'une compagnie aérienne. Heureusement, il existe des idées lumineuses en France avec des logiciels performants. Et c'est ce que vous avez créé, Alexandre Ferré. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le fondateur et le dirigeant d'Open Airlines. Open Airlines, ça existe depuis 2007. L'idée avec votre entreprise, votre logiciel, hein, que vous avez mis en place, c'est que les pilotes changent leurs habitudes au fur et à mesure pour moins consommer de carburant.
Oui, exactement. On agit sur ce qu'on appelle l'éco-pilotage. Donc, il y a différentes manières d'opérer l'avion, de préparer l'avion, de préparer le plan de vol et de le piloter. Comme une voiture, on peut être efficace ou moins efficace.
Et donc, et faire des économies de carburant facilement.
Des économies de carburant, des économies de CO2. Mmh.
Et je crois qu'il y a deux moments principalement où c'est très utile, puisque l'avion consomme beaucoup de carburant au moment où il décolle, et je crois au moment où il atterrit. Et c'est là où, par exemple, si on va, alors je ne suis pas du tout spécialiste d'aéronautique, mais si on va par étapes, par exemple,
par palier,
voilà, Elisabeth le dit beaucoup mieux que moi, ça permet par exemple de faire des économies. C'est ça la logique de votre logiciel?
Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux dans les phases de décollage et de montée, et les phases de descente. Et ce à quoi vous faites référence, c'est une descente traditionnelle et elle est par palier. C'est-à-dire que l'avion descend, maintient son altitude, donc on comprend que là, il remet du carburant, il redescend, il maintient son altitude. C'est comme si vous conduisiez avec des à-coups, consomme plus, ça fait plus de bruit. Aujourd'hui, on préconise des descentes douces ou descentes continues. Et les pilotes de Transavia, d'ailleurs, sont très forts. On a des taux d'application qui sont très, très forts sur ce genre de pratique. Et il y a des expérimentations à Orly ou Roissy pour généraliser cette pratique avec le contrôle aérien.
Mais comment ça marche? C'est un équipement que vous ajoutez dans l'avion ou c'est juste un système qui est relié à une tablette face au pilote?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'a pas besoin d'ajouter des équipements dans l'avion. Donc ça se déploie très facilement sur une flotte existante, quelle que soit la génération d'avion. En fait, on va en effet équiper les pilotes d'une tablette et on va récupérer toutes les données de la boîte noire. En fait, la boîte noire, c'est énormément de données qui sont enregistrées toutes les secondes.
Oui, ça ne sert pas que quand l'avion se crache, ça sert au quotidien.
Exactement. Au lieu de l'utiliser pour la sécurité, on en tient compte, on l'utilise pour l'efficacité énergétique.
Donc vous prenez en compte, une fois que vous analysez les informations des boîtes noires de l'avion, il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte. Il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi la météo, je crois.
Oui, il y a énormément de paramètres. Déjà, dans la boîte noire, on utilise une centaine de paramètres par seconde de vol, mais on y ajoute des paramètres externes comme la météo, des informations du contrôle aérien. Et donc, on fait ce qu'on appelle du big data pour mélanger tout ça et, avec des algorithmes, faire les meilleures recommandations possibles.
Et c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 10% d'économie?
Alors 10%,
oh là, oui. C'est comme sur toutes les plaquettes. Bon, quand on regarde dans le détail, c'est pas tout à fait ça quand même.
Alors 10%, c'est...
C'est le vol parfait.
C'est le vol parfait, et je dirais c'est une compagnie qui serait pas parfaite au démarrage. Quand on a démarré avec Transavia, c'était des gens qui étaient déjà très forts sur toutes ces pratiques. Mais en ajoutant ce genre d'outils, eh bien, on les fait progresser quand même dans les pratiques. Et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs qu'une compagnie est déjà mature, qu'elle a besoin de ce genre d'outils.
Ça c'est facile quand l'espace aérien est très rempli. Est-ce qu'on peut aussi modifier le plan de vol? Parce que quand on est en plein été, où il y a des décollages toutes les minutes, est-ce que là aussi on peut modifier au fur et à mesure le plan de vol pour favoriser les économies?
Alors c'est sûr que plus l'espace est contraint, donc si c'est des gros aéroports, si c'est encombré, plus il y a de contraintes finalement sur l'optimisation des routes que peut choisir l'avion ou le pilote. Mmh. Mais c'est là qu'on utilise les données en fait, parce que même sur un espace encombré, à 8 heures, c'est pas pareil qu'à midi, c'est pas pareil que le soir à 22 heures. Donc on va partager toutes ces informations, tout ce retour d'expérience avec les gens qui préparent les plans de vol ou avec les pilotes pour leur dire un lundi matin, à cette heure-là, il y a telle ou telle opportunité sur cette route.
Nathalie Stubler, vous êtes la PDG de Transavia. On l'a compris, vous faites partie des 32 compagnies avec laquelle travaille Open Airlines. Vous, de façon concrète, ça vous a permis de consommer moins de carburant et donc aussi de faire des économies?
Oui, tout à fait. Alors, on a même été compagnie de lancement de l'outil Skybreath, l'outil dont parle Alexandre. Oui, bien sûr. Et on monitore en fait toutes ces bonnes pratiques. En fait, l'outil va nous donner un certain nombre de bonnes pratiques. Il a parlé de la descente continue, mais ça va être, par exemple, une fois qu'on a atterri, qu'on est sorti de la piste, le roulage monomoteur à l'arrivée. Là aussi, on va économiser du carburant. Et donc, on va monitorer toutes ces bonnes pratiques à partir de toutes nos données de vol. Et justement, l'outil va nous dire, ben là, vous pouvez encore progresser. Alors, c'est sûr que quand on a fait la marge de progrès, eh bien, la marge qui reste, elle est peut-être plus petite, mais chaque marche est importante à faire.
La marge de progrès, c'est aussi changer de carburant. On parle de plus en plus des huiles que l'on peut consommer, par exemple, chez McDo ou dans n'importe quel fast-food. Des compagnies commencent à regarder. Est-ce que vous allez aller aussi rapidement vers ce genre de nouveaux carburants beaucoup moins coûteux?
Bien sûr, le carburant alternatif, c'est effectivement une voie de progrès pour l'aviation. Puisqu'on sait que bon, tant que l'avion à hydrogène ne sera pas encore en place, eh bien, on utilisera du carburant. Et donc ça, c'est effectivement un point qui est très sérieusement une piste d'amélioration.
Pourquoi ?
Alors, dès que...
Parce que le groupe Air France commence, hein, je crois,
oui,
déjà sur
sûr.
Quelques vols à en utiliser.
Bien sûr.
Le problème, c'est d'en avoir pour
Exactement.
Le moment, parce qu'il y a très peu de producteurs.
Effectivement, il faut que toute la chaîne se mette en place, toute la chaîne logistique.
Mais à quel horizon vous pensez pouvoir utiliser une partie de ce carburant dans vos pleins?
Je pense qu'assez rapidement, en fonction des plans des usines et des plans d'approvisionnement du carburant, ça va démarrer très très vite. Air France sera d'ailleurs pionnier en la matière en France, et puis nous aussi, bien sûr, également dans cette filière.
Alexandre Ferré, fondateur et dirigeant d'Open Airlines, combien de compagnies clientes pour vous en ce moment?
Alors, vous citiez 32, mais en fait, on en a plus maintenant. On est arrivé à 45, et même en cette période de crise, en cette période de pandémie, on a réussi
à... Vous avez recruté de nouveaux clients?
Oui, depuis avril, hein, c'est extrêmement dur, hein, pour
l'aérien,
commerce,
oui.
Pour l'aérien.
Mais justement, c'est l'occasion pour elle de réfléchir à diminuer la facture, j'imagine. C'est,
oui,
c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour vous.
On pense qu'en sortie de crise, notre solution sera très utile, hein, et puis répondra à l'urgence climatique, comme vous dites. Mais aujourd'hui même, pendant la crise, on a signé, depuis avril dernier, 7 nouvelles compagnies, et dans un peu tous les
des
pays.
Des grosses compagnies dans plein de pays?
Oui, on a signé en Inde, aux États-Unis, en Arabie Saoudite. On a signé le groupe Air France, parce qu'on était avec Transavia depuis longtemps, mais le groupe Air France. Donc on voit que la dynamique reste bonne et les gens se projettent
dans l'après-crise, dans une croissance verte. Et ça, c'est l'excellence à la française, grâce à vous, Alexandre Ferré, fondateur et dirigeant d'Open Airlines. Merci d'être revenu dans la France Bouge.
Et Nathalie Stubler, la PDG de Transavia, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, il est 13h29. À suivre, direction Bordeaux, à l'aéroport de Mérignac. Il existe depuis plus d'un siècle. Il est le témoin de notre histoire.
Oui, et ce sera notre saga du jour dans un instant. Allez, on parle vacances et on a envie de prendre l'avion aujourd'hui avec Elisabeth. En tout cas, merci d'être avec nous comme chaque jour en direct sur Europe 1 de 13h à 14h dans la France Bouge. Aujourd'hui avec Nathalie Stubler, qui est la PDG de Transavia. Alors logiquement, en ce moment, on pianote sur nos ordinateurs pour essayer, pour ceux qui ont la chance de partir à l'étranger, de trouver un vol. Est-ce qu'il y a des réservations là pour le moment, pour cet été?
Alors, il y a beaucoup d'attentisme, mais ça frémit, je dirais déjà, en particulier pour la Grèce. Ou pour quelques destinations françaises que nous avons ouvertes récemment, départ de Brest vers la Corse par exemple. Donc ça frémit,
mais aujourd'hui la grande peur des clients, puisque il y a des moments où il y a pas du tout eu de vol, ensuite il y en a eu l'été dernier, la grande peur des clients, c'est de ne pas pouvoir partir ou de ne pas se faire rembourser. Aujourd'hui, quelle est la règle qui est mise en place pour vos clients par exemple?
Alors, c'est très simple, hein. Nous annulons un vol, nous remboursons les clients. Il n'y a pas de problème
là-dessus.
Vous voulez
rembourser s'ils veulent être remboursés?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons,
Parce que c'est vrai qu'au démarrage, ça n'a pas tout à fait été le cas
démarrage
pour les compagnies.
Aussi clair,
le démarrage a été très difficile aussi pour nous, hein, parce que la soudaineté de la crise, l'ampleur de la crise, a fait qu'au début de la crise, nous avons proposé des vouchers, en anglais, des avoirs à nos clients. Ces avoirs sont remboursables. Tous les clients qui ont reçu un avoir peuvent nous demander de le rembourser. Et puis, à partir du mois de juin, une fois que, voilà, ça y est, on était un peu sortis de ce démarrage très difficile pour nous, dès que nous avons annulé, nous avons remboursé. Qui plus est, nous permettons, alors que d'habitude les billets, surtout sur une low cost, sont peu échangeables ou avec des pénalités, là nous avons enlevé nos pénalités d'échange et nous proposons aussi aux clients d'échanger leur vol là, s'ils veulent effectivement changer de destination.
La grande question que tout le monde se pose, c'est comment allons-nous voyager? Est-ce que l'on va devoir avoir un passeport vaccinal? C'est-à-dire que seules les personnes vaccinées pourraient voyager. Est-ce que vous, patronne de compagnie aérienne, c'est quelque chose que vous prenez?
Alors, ces instructions, ou je dirais ces obligations, arriveront de par les États et s'imposeront, je dirais, à nous. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une uniformité, je dirais, des demandes et des procédures, parce que ce qui est compliqué à gérer, ce sont les exceptions entre pays. Et donc, effectivement, ces restrictions, ou pas, arriveront par les différents États. Et donc, ça serait effectivement très important pour nous qu'il y ait une uniformité.
Mais vous, en tant que patronne de compagnie aérienne, pour assurer l'un de vos rôles, au-delà de transporter les passagers, c'est d'assurer leur sécurité à tout niveau. Vous prenez quoi? Vous prenez le passeport vaccinal, le masque, uniquement le masque? Quelle est votre position là-dessus?
Mais nous, on ne peut pas se substituer aux autorités sanitaires de notre pays ou des pays que nous desservons. Donc c'est ça que nous suivons. Effectivement, par exemple, en France, il a été dit que dès le début, il fallait un masque de type chirurgical pour voyager. Et bien sûr, on s'est effectivement attaché dès le début à suivre cette préconisation. D'autres pays ont préconisé autre chose. Donc effectivement, c'est important pour nous. Ben nous, à bord de nos avions, il y a pas de, ce sont nos autorités qui font foi. Et donc, c'est le masque chirurgical. Et donc, c'est effectivement important d'avoir un bon dialogue avec les autorités françaises et des autres pays. Et nous suivons, bien sûr, les recommandations ou ce qui est imposé.
On le disait tout à l'heure, hein, vous êtes la low-cost d'Air France, vous êtes né en 2006. Qu'est-ce qui fait qu'on paye si peu cher un billet par rapport à Air France? Qu'est-ce que vous faites de moins ou qu'est-ce que vous faites de mieux qu'Air France pour proposer un Paris-Barcelone trois fois moins cher que ce que faisait Air France à l'époque quand il desservait le Paris-Barcelone?
Alors, le principe d'une low-cost, finalement, c'est d'avoir un produit unique, un produit simple, une flotte unique, une flotte homogène, et de faire beaucoup tourner les avions, parce que c'est effectivement ça qui coûte cher dans une compagnie aérienne. Et donc d'avoir une amplitude horaire, je dirais, un peu au maximum de l'utilisation de nos avions et de les faire tourner au maximum. C'est comme ça que par ce produit unique, ce produit simple, cette utilisation maximum, je dirais, on arrive à...
Mais il paraît que chaque compagnie a ses petits trucs. Chez EasyJet, les sièges sont moins espacés. Certaines compagnies, je crois que c'est Norwegian, ils n'ont plus de chariot de nourriture parce que c'est trop lourd. C'est quoi le truc Transavia?
Alors, le truc Transavia, c'est d'abord aussi... notre motto, hein, c'est, alors il est en anglais, c'est low cost feel good. Et ça, c'est plutôt pour la partie recette. C'est que nous, on dit, on est une low cost, mais on est une low cost de qualité. Et on va proposer un petit plus à nos clients qui vont faire, qui vont trouver que c'est sympa de venir chez Transavia, qui vont revenir chez Transavia.
Et c'est quoi le petit plus alors?
Alors, le petit plus Transavia, on va jouer sur plusieurs aspects. D'abord, il y a à bord, tous les clients qui voyagent sur Transavia, recommandent l'expérience. Nos personnels navigants de cabine, nos hôtesses et nos stewards sont extrêmement bien notés par les clients. Je dirais l'année dernière, alors en pleine crise, hein, ils avaient besoin d'être rassurés d'ailleurs par ce personnel.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont particulièrement sympas? Ça veut dire, il y a quoi en plus?
Parce que alors, dire qu'ils sont bien notés, dévoiler tous nos secrets
à l'antenne. Non, mais dire qu'ils sont bien notés, c'est normal que vous le dites. Mais
oui,
est-ce qu'il y a un petit exemple, quelque chose qui peut nous donner, nous dire ah tiens, c'est vrai que j'ai une compagnie concurrente, on l'a pas vu ça.
Eh bien, d'abord je vous inviterai à voyager sur Transavia et vos auditeurs également, mais vous verrez. Qu'effectivement, alors évidemment, tout ce qui est procédure réglementaire de sécurité...
Je sais pas, les bagages, est-ce qu'il n'y a pas des bagages davantage?
Non, c'est l'esprit dans lequel ils vont avoir la relation commerciale avec les clients, comment ils vont accueillir les clients, et ce feel good, ils vont arriver à le transmettre à nos clients.
Justement, tiens, Elisabeth parle des bagages, ce qui est un énorme problème dans les compagnies low cost, parce que par définition, on veut payer le moins cher possible, et vu qu'on perd un bras dès qu'on met un bagage en soute sur un vol low cost, beaucoup de clients décide de garder un petit bagage à main avec eux. Sauf que, moi j'ai appris que les avions ne sont pas du tout prévus pour ça et que du coup, vous n'avez tout simplement pas assez de place pour ranger les bagages. Je crois que le groupe Air France est en train d'agrandir ses coffres à bagages sur Air France. C'est pour quand sur Transavia?
Alors, c'est vrai que d'abord, on a une politique de bagages qui permet d'avoir un bagage cabine gratuit en cabine. Hein. Donc ça, c'est important de le souligner. Tous ne proposent pas ce service. Et puis après,
voilà un petit plus alors.
Ça, c'est déjà un plus. Ensuite, quand vous rentrez dans un avion, vous allez voir effectivement les rangées de sièges et puis la taille des coffres au-dessus. Et vous imaginez que si chacun des passagers sur ce siège avait un bagage cabine à roulettes, ben vous verriez que, effectivement, assez naturellement, il n'y a pas la place dans le coffre juste au-dessus. Donc, effectivement, quand le quota est atteint, on propose au client de mettre son bagage en soute, même gratuitement, parce qu'il avait la possibilité de l'avoir en cabine.
Mais là, je crois que vous réfléchissez à les agrandir, ces coffres à bagages, de façon à limiter ça, puisque ça ne fait pas plaisir aux clients d'attendre par ailleurs son bagage, parce que certains aéroports ne sont pas encore toujours très efficaces pour nous donner nos bagages.
Alors, l'agrandissement des coffres, effectivement, c'est une des pistes qui peut exister. On y réfléchira, effectivement, en fonction de l'économie de l'entreprise.
Oui, et de la suite et des questions sanitaires. Alors, chaque jour dans La France Bouge, Nathalie Stubler, on se pose et on découvre l'histoire d'une marque, d'un endroit, d'un produit français qui a traversé des générations, qui existe encore. Et aujourd'hui, on va aller à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Avant la crise, il accueillait plus de 7 millions de passagers par an. Il dessert 113 destinations.
Et c'est notre saga du jour, racontée aujourd'hui par Doranana.
Europe 1, La France Bouge. La saga.
Plus de 100 ans que l'aviation est présente à Mérignac. Il faut remonter à 1910, année où est organisée au lieu-dit de Beaudésert, sur la commune de Mérignac, la première manifestation d'aéronautique. Dans la foulée, le premier terrain d'aviation va être construit par un jeune pilote de 23 ans, Bruno Vieille, passionné d'histoire aéronautique et auteur de plusieurs livres sur le sujet.
Le premier terrain d'aviation a été construit par Marcel Issartier, qui avait acheté son avion et qui s'est rapidement installé à Mérignac au lieu dit l'Artigue en 1912. C'est là où maintenant il y a une partie de l'aéroport qui est implantée là.
Quand la Première Guerre mondiale éclate, c'est encore à l'époque un champ dans la campagne avec un hangar en bois. Il faudra attendre le milieu des années 30 pour que Bordeaux-Mérignac devienne un aéroport tel qu'on l'imagine aujourd'hui, piste en dur, aérogare et hangar. Mais en 1936, c'est un aéroport flambant neuf qui est inauguré, mais sans trafic aérien.
Parce qu'en fait, la ligne Paris-Bordeaux-Madrid qui avait été ouverte, eh bien, elle avait été fermée juste quelques semaines avant par la guerre civile espagnole. Et donc, quand le ministre est venu inaugurer l'aéroport, il n'y avait plus aucune ligne aérienne.
Ces nouvelles infrastructures modernes pour l'époque attirent l'armée de l'air à l'approche de la guerre qui va y installer en 1937 une escadrille de bombardiers. Et le 17 juin 1940, alors que des avions sont stationnés sur le tarmac, un certain Charles de Gaulle va passer par là.
C'était la débâcle en France et de Gaulle, quand il est arrivé, il était négocié à Londres pour faire une entente française. Et quand il est revenu, il a appris que c'était le maréchal Pétain qui avait pris le pouvoir et qui demandait l'armistice. Donc il a refusé, il est reparti sur Londres avec l'avion qu'ils avaient amené à Bordeaux la veille.
Et quelques jours plus tard, l'aéroport passe entre les mains des Allemands. Ils découvrent un aéroport neuf qui va leur servir de base militaire pour attaquer les Alliés.
Après, ils vont l'occuper, ils vont installer une escadrille de bombardement équipée de Condor et qui va faire des rondes sur l'Atlantique. Ils vont bombarder les convois alliés qui passent dans le golfe de Gascogne plusieurs fois.
Après plusieurs bombardements, l'aéroport va finir en champ de ruines en 1944.
Les pistes sont parsemées de trous de bombes, les hangars sont détruits, l'aérogare est détruite, enfin tout est détruit.
Après-guerre, il sera reconstruit. Son emplacement stratégique et son passé de base aérienne vont séduire l'OTAN qui s'y installe.
Bordeaux a été sélectionné en 1951 pour que l'US Air Force s'installe, mais c'était provisoirement. En fait, Bordeaux était le port d'entrée. Ça arrivait par le port ou par l'aéroport et après, c'était réparti dans le reste de l'Europe.
Années 60-70, le trafic aérien se développe. À Mérignac, c'est à l'approche de l'an 2000 qu'il va vraiment décoller. Mais l'arrivée du TGV en 2017, qui relie Paris à Bordeaux en 2 heures, va les amener à changer de stratégie. Ils vont miser sur les compagnies low cost. Paris gagnant. En 2019, ils atteignent les 7 millions de passagers. Mais en 2020, la crise sanitaire va faire plonger le trafic. Moins 70% et seulement 2 millions de passagers. Désormais, tous les espoirs sont tournés vers cette nouvelle année avec deux enjeux majeurs. La sauvegarde de l'emploi et le respect des engagements environnementaux.
C'était donc Dora Nana de l'équipe de la France Bouche pour cette saga autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Alors vous êtes dans plusieurs bases en région. Vous êtes à Nantes, vous êtes à Lyon, vous êtes à Montpellier et le principal hub est à Orly et ici à Paris. En ce moment, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça coûte très cher de laisser un avion au sol parce que vous devez les entretenir, tous ces avions qui ne volent pas. Je crois que c'est quasi quotidien qu'il faut qu'un humain monte, allume le moteur, hop, fasse en sorte de faire tourner un peu tout ça et vérifie tout ça.
Il y a plusieurs façons de stocker des avions. Lorsqu'on était complètement au sol au printemps dernier, on a utilisé ce qu'on appelle de l'active storage. Effectivement, les avions, ils étaient vraiment au sol. Il fallait passer tous les jours faire des opérations sur ces avions, mais ils ne volaient pas. En ce moment, c'est pas la voie qu'on a choisie, parce que à part un ou deux avions qui seraient concernés par ça, on fait voler nos avions régulièrement.
À vide ?
Non, mais on fait en sorte que le matricule, enfin chaque avion a un matricule, que chaque avion vole de façon régulière pour ne pas avoir à le stocker complètement. Parce qu'on pense que là, dans la phase où on est, où on a besoin de reprendre de l'activité dès que ça repartira, il vaut mieux faire tourner, effectivement, selon les matricules des avions.
Pareil, vos pilotes, en ce moment, j'imagine qu'ils sont en chômage partiel. Est-ce que vous continuez à les former, à les entraîner, pour qu'ils ne perdent pas leurs compétences ?
Bien sûr. D'abord, c'est extrêmement réglementé. Tout ça est suivi par les autorités de l'aviation civile. Et ce qu'on fait, effectivement, pour maintenir ce qu'on appelle l'expérience des clients, eh bien, s'il n'y a pas assez de vols, ils ont des séances de simulateur avant les prochains vols. C'est effectivement ce qu'on fait et ce qui nous demande effectivement plus de séances de simulateur en ce moment pour maintenir l'expérience de nos clients et être prêts à repartir quand on pourra le faire.
Pour maintenir leurs acquis et leurs compétences. Nathalie Stubler, vous êtes la PDG de Transavia. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Là, c'est le moment de mettre votre casquette de coach parce qu'on va vous demander votre avis sur un projet d'entreprise.
Europe 1, 13h43.
Direction les trophées Europe 1, la France bouge. Le pitch du jour, Oscar et Sacha.
Ouais, c'est pointu, mais c'est quand même très intéressant. Des cirés de couleurs pour les enfants pour qu'on arrive notamment à les voir dans le noir. On va voir ça dans un instant. Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1 La Franche Bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, qui est là, hein, qui est déjà en train de se préparer. Ouais. Notre partenaire de la CCI et Nathalie Stubler également, qui est notre grand témoin aujourd'hui, qui est la PDG de Transavia.
Et encore une personne de plus qui ose se lancer en ce moment. Et vous avez raison. Bonjour Yann Didi.
Bonjour.
Vous avez 32 ans. Vous êtes le cofondateur de Oscar et Sacha. Et Oscar et Sacha, bah, je vous propose de voir ce que c'est. Éteignez la lumière, s'il vous plaît.
Pour ceux qui sont en tout cas sur
europa.fr, est-ce que vous y parvenez ou pas ?
On voit bien, effectivement. Bon, ce sont des cirés.
Est-ce que vous voyez bien ?
Ce sont des cirés qui se réfléchissent dans la nuit et qui fait que nous ne risquons pas de perdre nos enfants. Là, on est bien tamisé là dans le studio d'Europe 1, le studio Lagardère. J'ai l'impression de commenter un match de football, Elisabeth.
Et voilà, et regardez,
ça existe en voilà, jaune si, ou ça existe en orange.
Si vous perdez vos enfants, eh ben vous allez les retrouver grâce à ces cirés, Oscar et Sacha. Yann. Ben, je vous laisse nous raconter votre pitch. Avec c'est parti, vous avez plaisir. Une minute.
Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Yann, le fondateur d'Oscar et Sacha, la première marque haute visibilité conçue pour les enfants. Donc, on a lancé notre marque qui est encore toute jeune en novembre dernier.
Oui, à peine 3 mois.
Collection de cirés, exactement, visible de nuit, mais également de jour, donc 200 mètres de jour et jusqu'à 100 mètres de nuit. Alors les vêtements haute visibilité, l'association du fluo et des zones réfléchissantes, tout le monde sait ce que c'est. Hein. On en voit tous les jours sur le dos des forces de l'ordre, du personnel autoroutier, des employés communaux, à la sortie des écoles, des joggeurs, des cyclistes, des agents de piste dans le domaine de l'aviation. Tout le monde en bénéficie, ou presque. On a été témoin il y a un peu plus de 2 ans d'un incident évité de justesse, un petit garçon qui était vraiment à 2 doigts de se faire renverser par un bus. Et on a tout simplement réalisé que les enfants ne bénéficiaient injustement pas de ces nombreuses technologies de vêtements développées pour favoriser la sécurité de l'adulte. On a donc décidé d'agir et on a, avec un objectif, faire en sorte que ces vêtements fassent partie intégrante de la garde-robe des enfants.
Voilà, moi je suis le maître du temps, je suis obligé de vous arrêter. Bah, vous voyez, je peux révéler que vous nous aviez dit que vous étiez très stressé. Bah, pas du tout.
Pas du tout.
Ça s'est bien passé.
Tant
ça
mieux.
Va mieux maintenant.
Tant mieux, très bien.
Oscar et Sacha, c'est qui ?
Je suis papa de jumeaux.
Ah ben voilà. Oscar et Sacha.
Donc c'est eux.
Eh ben on les embrasse. On les embrasse. Alors Yann, je vous présente Nathalie Carré. Nathalie, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Yann, bonjour Emmanuel.
En charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Alors Nathalie Carré, chaque jour, elle analyse les candidatures pour les trophées Europe 1 La France Bouge. Quelles sont les forces et les faiblesses d'Oscar et Sacha, Nathalie ?
Alors déjà les forces, il y a près de 600 piétons accidentés par an et la moitié sont des enfants. Donc pour les parents, c'est vraiment la peur quotidienne que ça arrive, notamment quand on commence à laisser nos enfants aller à l'école tout seuls. Il y a un vrai besoin. Deuxièmement, le concept est simple mais absolument génial. Détourner les vestes de sécurité pour adultes au profit des enfants et en les relookant pour leur donner un côté super-héros. Et puis le site et les photos des enfants qui donnent vraiment envie, qui est très très joli. Un point amélioré, bon, alors d'abord on attend la suite, hein, les blousons, les doudounes, etc. parce que les cirés c'est qu'une partie de l'année. Et puis une suggestion, le prix est quand même assez élevé pour un enfant, pour un vêtement que l'enfant finalement ne portera que
il faut
an,
qu'on le donne
puisque
personne ne l'a donné.
Oui,
75
exact.
Euros.
75 euros. Peut-être que vous pouvez proposer un dérivé de votre solution avec une surveste de super-héros ou des autocollants de super-héros ou une boutique avec des cirés d'occasion. L'accident touche tout le monde, ça serait dommage que le prix soit un frein à la sécurité.
Alors, c'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Yann, qu'en pensez-vous ? Le prix, vous pouvez le bouger ou ajouter
alors,
des super-héros ?
Déjà, merci beaucoup à Nathalie pour les précieux conseils. Le prix, on a essayé de s'aligner avec les gros du marché. J'estime que ça a un prix à peu près justifié, sachant qu'on propose quand même des gros avantages. Et notamment,
ils tiennent chaud ou c'est juste pour protéger la pluie ?
Ils tiennent chaud, il y a une doudoune amovible à l'intérieur, ouais, donc on peut le porter même quand il fait un peu plus frais. Et puis c'est un ciré, donc ça traverse les saisons et ça traverse les époques aussi. Donc c'est vraiment le vêtement protecteur par excellence.
Nathalie Stubler, vous êtes la PDG de Transavia. Ce genre de couleurs sur les pistes, on en voit pas mal au pied de vos avions. Qu'est-ce que ça vous inspire comme projet ?
Ah ben, je trouve que c'est un projet très très dynamique. Moi je trouve que c'est une belle idée. Moi mes enfants sont grands maintenant, mais c'est effectivement... Un stress de tous les parents de voir les enfants pas du tout vus par les voitures ou les bus. Et je trouve que c'est un vrai plus. Effectivement, on en met au pied des avions pour que tous les engins de piste puissent repérer les pilotes quand ils viennent faire le tour de l'avion ou les agents de piste. Moi, je trouve que c'est une très belle idée.
Vous avez besoin de quoi ? Je crois que vous avez besoin de sous. C'est le moment de le dire.
On a besoin de faire du volume, on a besoin de créer des nouvelles collections, comme le disait Nathalie. Donc on a besoin de, je ne sais pas, 100, 150 000 euros serait
allez-y,
un bon
début. C'est le moment. 150 000 euros. Et vous cherchez à recruter alors. Aussi.
Oui, pourquoi pas.
Ouais. Et ben pourquoi ? Quel type de poste ?
Des postes multifonctions.
Pour l'instant, vous êtes combien dans le lancement ? Vous êtes deux ?
On est deux, ouais.
Et ben écoutez, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Ça s'appelle Oscar et Sacha. Nous, on a vraiment beaucoup aimé cette idée avec Emmanuel. Merci à vous, Yann Zidi. Merci d'être venu dans La France Bouge.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup à vous, Nathalie Carré. On vous retrouve lundi si vous aussi, vous voulez venir présenter votre super projet. Eh bien, une seule adresse, elle est super compliquée. e1-lafrancebouge@europe1.fr. Mais vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Et Nathalie Stubler, PDG de Transavia, vous restez encore un tout petit peu avec nous suite et fin de notre émission.
Europe 1. Dans le vol Europe 1, il est 13h52.
Dans un instant, on continue à soutenir et accompagner les jeunes. C'est la mission d'Europe 1 et de La France Bouge.
Je suis prêt, Stuart. Bon, on va passer un coup de fil à une
ça
entreprise
vous bien.
Bon, ouais, qui prépare des repas pour chiens et chats ultra premium qui recrute 35 jeunes en CDI cette année. La France Bouge, déjà dernière partie de votre émission, toujours avec notre grand témoin du jour, Nathalie Stubler, qui est la PDG de Transavia. Si vous nous suivez depuis le début de la semaine sur Europe 1, on vient en aide aux jeunes ici à La France Bouge, mais dans toutes les émissions de l'antenne, on vous propose des offres d'emploi qui sont à retrouver sur notre carte interactive, sur notre site internet, hein, europe1.fr avec Hobson Table. Je crois qu'on en est à plus de 20 000 offres d'emploi.
Plus de 20 000 offres d'emploi. Il y a du travail.
Ce sont des CDI, hein, ce sont de vrais jobs, c'est important de le lire. Et puis nous, rassurez-vous, à La France Bouge, on continuera chaque mercredi, chaque vendredi à vous proposer des offres d'emploi, principalement pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
Bonjour Mathieu Vinquer.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur d'Ultra Premium Direct. C'est une entreprise qui existe depuis 7 ans. Vous êtes basé à Agen. Et vous livrez, vous, des croquettes riches en viande, par exemple, pour les chiens et les chats, directement à la maison. Aujourd'hui, vous avez 90 salariés, un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros en 2020. Et là, vous allez faire, je crois, plus de 60% de croissance pour 2021. Alors, pour accompagner cette croissance, je crois que vous avez besoin de recruter. Vous recrutez qui ? Vous cherchez quoi ?
Alors, on recrute pour notre siège à Agen et notre usine à Agen des caristes, des opérateurs de production polyvalents, à environ une dizaine sur l'année. Et on recrute également des postes d'encadrement, comme un directeur des achats, un responsable de système d'information. Et puis, pour notre pôle de Bordeaux, nous recrutons en fait une équipe web complète avec beaucoup de développeurs, donc 3 à 4 profils de développeurs vont être recrutés, mais également des spécialistes du web marketing et des data analystes.
Alors je crois que vous avez dit à notre équipe, chez nous il y a zéro discrimination, on veut juste que la personne aime les animaux, et je crois qu'ils ont même le droit de venir au bureau les animaux.
Alors effectivement, je pense qu'on est une des très rares entreprises où les animaux de nos salariés sont les bienvenus dans les bureaux.
Et quels que soient les animaux. Ça, on en a fait une il n'y a pas longtemps à La France Bouge, il y avait même un perroquet dans l'entreprise.
Alors nous, on a des chiens, beaucoup de chiens et des chats. Mais bon, personnellement, moi j'en ai d'autres, mais ils ne viennent pas forcément au bureau, je ne viens pas à cheval. Mais donc effectivement, on a des animaux, nous, il n'y a pas de discrimination, on recherche des collaborateurs qui ont cette passion-là, qui sont engagés, dynamiques, qui ont le goût du travail, et puis qui ont envie de s'impliquer dans notre aventure, hein, puisque vous l'avez vu, on est... en croissance de 60% par an. Et on a une attractivité également au niveau tech, web, puisqu'on vient d'intégrer le French Tech 120, ce qui est très rare pour une entreprise industrielle. Et donc, ça devrait beaucoup faciliter notre visibilité pour recruter nos profils pour notre équipe technique de développement web.
Au-delà de la passion et de la curiosité, allez, c'est quoi pour vous le candidat idéal ? S'il y en a un ou une qui nous écoute, qui a envie de déposer sa candidature, qu'est-ce qu'il doit avoir de plus qu'un autre ?
Bah, il doit avoir, on va dire, envie de s'impliquer, de participer à une aventure où on se développe. On est dans une entreprise très jeune, la moyenne d'âge est 30 ans, je fais pas partie des papis de l'entreprise. Donc nous, voilà, on est dynamique, on bouge, on a des nouveaux projets, des nouvelles idées, on peut offrir des perspectives de carrière avec des gens qu'on a recrutés parfois en emploi d'avenir sans aucune formation et qui ont aujourd'hui des responsabilités d'encadrement. Donc, on peut vraiment avoir l'aventure d'une vie, d'une carrière dans l'entreprise.
Donc, on peut se projeter avec vous.
On peut se projeter, on peut construire une carrière, d'autant plus que...
Surtout que je crois que vous dites, vous aimez bien l'expérience, mais vous formez tout le personnel. C'est pour ça que vous avez pris des contrats d'avenir, des initiatives emploi, des jeunes issus de quartiers compliqués qui, depuis, ont fait carrière chez vous.
Tout à fait. On a notamment sur les postes d'usine, de service client au siège, formé des gens qui n'avaient pas forcément de première expérience et qui avaient des difficultés d'intégration dans le monde du travail parce que on aime les animaux, on est sensible à la condition animale, mais on a aussi envie d'avoir un rôle social d'intégration des jeunes. Je pense que c'est la mission de notre entreprise. Et donc, on peut former, évidemment, pour des postes très techniques comme le développement web, une première expérience est nécessaire. Mais on est une entreprise formatrice et qui offre des possibilités de passerelle. Mmh. On peut passer de l'usine au bureau. On va pouvoir passer des bureaux ou de l'usine
énormément
vers des magasins.
C'est très flexible, c'est ce qu'on entend. Vous êtes très très flexible chez Ultra Premium Direct.
Vous, j'imagine, Nathalie Stubler chez Transavia. Pour le moment, on fait une petite pause côté recrutement, puis on verra si l'été se passe bien.
Effectivement, on s'adaptera à notre plan de croissance et notre croissance vol. Et puis, on adaptera notre plan de croissance personnel en fonction. Mmh.
Merci à vous, en tout cas, Nathalie Stubler. Vous êtes la PDG de Transavia. Et on espère avoir de très très bonnes nouvelles avec vous d'ici l'été.
Merci.
On va vous souhaiter de bonnes vacances.
Mais oui, parce que moi aussi.
Avant même l'été, vous partez quelques jours.
Moi, je vais partir, je vais prendre l'air quelques jours.
Bon,
et
bien, reposez-vous bien. Bah, vous aussi, vous allez nous manquer. On va vous retrouver d'ici une semaine. D'ici là, on sera en compagnie de Carole Ferry.
Et vous allez parler de quoi lundi? Parce que moi, je vais quand même vous écouter.
On boira de l'eau. On sera avec le patron de Cristaline lundi.
Formidable. Eh bien, à lundi, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.